Chapitre 20.
Par là,
dit Tilly en désignant un passage niché dans les ombres au fond de la grande salle.
Nous devons suivre ce chemin.
Magda connaissait cet endroit même si elle n'avait jusqu'à ce jour pas eu l'occasion d'y aller. Ni l'envie, pensa-t-elle en plaquant une main sur son estomac noué. Alors que Tilly et elle traversaient la salle en suivant une longue diagonale, la veuve de Barraqueux s'efforça de garder le visage dans les ombres de sa capuche. Elle ne ferait rien d'extravagant pour empêcher qu'on la reconnaisse, certes, mais il n'était pas question non plus de clamer haut et fort sa présence. Dans l'immense caverne, le simple écho de ses pas lui parut assourdissant et suffisant pour la trahir. Jetant un coup d'œil discret autour d'elle, Magda vit des sorciers et des magiciennes qu'elle connaissait. Même si elle ne faisait rien de mal ici, elle ne tenait pas à s'arrêter pour bavarder avec ces gens, et encore moins pour justifier sa présence. Comme Barraqueux le lui avait souvent répété, quand on faisait quelque chose d'important, il ne fallait jamais trop en révéler aux autres. En fait, le strict minimum suffisait. Fidèle toute sa vie à cette ligne de conduite, le premier sorcier évitait même d'en dire trop à son épouse. Dans la mort, il ne s'était pas écarté de sa philosophie. Magda était désormais sûre que le suicide de son mari, presque banal pour ceux qui le connaissaient mal, avait un sens bien plus profond qu'il y paraissait. Se donner la mort ne cadrait pas avec la personnalité et le caractère de Barraqueux. Il y avait autre chose, mais quoi? Quel objectif avait pu convaincre un homme pareil de déserter le monde? En tout cas, en ce qui concernait sa mort, il semblait avoir eu la ferme volonté que Magda se mette en quête de vérité. Son dernier message en attestait, la chargeant très explicitement de se lancer dans cette recherche. D'une façon ou d'une autre, la jeune femme finirait par savoir ce que cachait la fin de son mari. En suivant Tilly, elle remarqua que les grandes niches ménagées dans le mur de gauche de la salle avaient été transformées en ateliers. Penchés sur un établi, des artisans travaillaient le métal ou le bois. Au fond de certaines de ces échoppes, on distinguait de grandes remises dont les portes coulissantes étaient le plus souvent ouvertes afin de laisser circuler l'air. Les feux rougeoyants d'une forge au cœur d'une de ces grandes pièces trahissaient une activité frénétique qui attira l'attention des deux femmes. Consécutivement à ce qui paraissait être un grave accident, des hommes se criaient des ordres et des instructions en tentant de contenir l'incendie. Jetant un coup d'œil, Magda constata que le plus grand désordre régnait en ces lieux. La forge à demi éventrée, des débris de briques et des braises ardentes jonchaient le sol. La partie supérieure de la forge n'était nulle part en vue, pas plus que sa cheminée d'évacuation. Une fumée âcre et des cendres encore incandescentes volaient dans les airs et passaient dans la caverne principale. Les parties métalliques de la forge, tordues comme par la main d'un géant, laissaient supposer qu'il y avait eu une explosion très violente. Des éclairs continuaient à zébrer l'air autour de la forge dévastée, filant vers la voûte où ils parvenaient à fissurer la roche. À l'évidence, la magie n'était pas étrangère à la catastrophe et elle avait dû être largement impliquée dans les travaux en cours. À la lueur des éclairs, les hommes jetaient des seaux d'eau sur les flammes, faisant siffler comme des serpents les morceaux de charbon encore brûlants. Comme si l'illumination était insuffisante, d'autres sorciers faisaient léviter des sphères lumineuses au-dessus de la scène. Magda repéra un homme écroulé sur le sol près du mur du fond et un autre qui gisait sur le ventre non loin de là. Deux cadavres, hélas. De la fumée s'élevait encore de la tunique noire d'un des malheureux. Un fragment d'épée était enfoncé dans sa poitrine. Plissant les yeux, Magda vit que le mort avait perdu un bras coupé au ras de l'épaule. Le morceau de lame ne bougeant pas d'un pouce, il était aisé de voir que le pauvre sorcier ne respirait plus. Sur le sol, à côté des braises, des éclats de la lame brisée brillaient comme des pierres précieuses. Un morceau planté dans un mur pourtant noyé au cœur des ombres scintillait avec la même violence. Quelques personnes entouraient un blessé étendu sur le sol. Agenouillés en cercle, ces sorciers unissaient leurs efforts pour tenter de guérir leur infortuné collègue. Pour que les convulsions du blessé ne l'achèvent pas, deux ou trois hommes le tenaient pendant que les autres invoquaient leur pouvoir pour le sauver. « La source des cris !» devina Magda. L'instinct la poussa à voler au secours du pauvre homme, mais des gens bien plus qualifiés qu'elle s'en occupaient déjà. Selon les trois sorciers croisés dans le couloir, rien ne serait arrivé si Merit n'avait pas abandonné son poste et ses compagnons. Comment pouvait-on déserter ainsi? Des vies étaient perdues à cause de cette vilenie. Accessoirement, comment une épée avait-elle pu exploser et provoquer de tels dégâts? Consciente qu'elle ne pouvait rien faire pour aider, Magda et Tilly continuèrent leur chemin. D'autres niches géantes fourmillaient d'activité à la seule lumière des forges ou des grands fours. Malgré le drame qui venait d'avoir lieu, le travail continuait. Le métal fondu et les fours ne supportaient pas qu'on les laisse en surveillance. Manipulant d'énormes billes de métal, certains ouvriers continuaient l'enfourchage, tandis que d'autres, à un autre stade de la production, versaient des flots d'alliage en fusion dans des moules. Dans d'autres ateliers, des forgerons, marteaux en main, attendaient devant leur enclume qu'on leur livre des barres à la bonne température pour être travaillées. Dès que c'était fait, ils se mettaient à l'ouvrage avec un bel ensemble. Un concert de bruits de marteaux et de cris retentissait en permanence dans la caverne géante. Un concert? Une cacophonie plutôt, des plus assourdissantes quand on y ajoutait le grincement des limes, le chant sourd des soufflets et le vacarme de centaines de conversations. La senteur du métal en fusion monta aux narines de Magda, se mêlant au relent de fumée et à l'odeur de l'eau salée et de l'huile utilisée pour la trempe. Dans cette fourmilière envahie de fumée, aux reflets orange, l'éclat lointain des fournaises des forges, le travail ne cessait jamais, quoi qu'il arrive. En temps de guerre, quand la pression de l'ennemi augmentait, il ne fallait surtout pas relâcher son effort. Tous ces gens le savaient, et l'angoisse qui les poussait à dépasser sans cesse leurs limites était presque palpable.